Québec maintenant. Il y en a qui sniffent de la colle, il y en a qui boivent de l'alcool. Il y en a qui écoutent du rock and roll, il y en a qui perdent le contrôle.
Oh, c'est un voyage nostalgique dans le passé. Marc Drouin, après l'école. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Oui. Et Maude Goyer, tu vas nous parler pour ta chronique là, des examens de fin d'année qui suscitent du stress. Ça, les enfants, je veux dire, doivent apprendre quand même à vivre avec un certain stress. La question de fond, c'est est-ce que c'est nécessaire, les examens de fin d'année?
C'est ça. Est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce que c'est pertinent? Puis en fait, je vais d'abord te raconter un peu chez moi. Bon, j'ai un garçon qui est en secondaire 4 et j'ai une fille qui est en secondaire 2. Secondaire 4, c'est une grosse année. Hein? Beaucoup, beaucoup d'examens du ministère en mathématiques, en sciences, en histoire. Donc, beaucoup d'études. Tout ça après une année chargée. Tout ça après aussi des pratiques d'examen. Tout ça après aussi des examens de fin d'année avant parce que, bien sûr, ils finissent l'année, donc ils ont des gros examen, puis là, se rajoute à ça l'examen du ministère. Alors là, je vois mes enfants qui révisent, qui sont stressés, qui sont fatigués, qui sont tannés aussi, c'est sûr, rendu à ce temps-là de l'année. Et j'ai fait un petit sondage sur mes réseaux sociaux. Je me suis demandé, allons-y, c'est pas un sondage léger, mais quand même, 250 répondants, est-ce que c'est utile ou pas? Puis au primaire, 250 réponses, donc 62% trouvent que c'est inutile, sont contre, et 24% disent « je ne le sais pas ». Ça fait quand même un gros 86% des personnes qui se posent des questions. Au secondaire, un peu plus mitigé, 64% qui sont contre ou qui ne le savent pas. Donc, j'ai reçu plein de témoignages, une avalanche. Donc, les parents sont là-dedans en ce moment et la semaine dernière, des enfants qui pleurent, des enfants qui font de l'anxiété, des enfants qui font de l'insomnie, des enfants qui essaient d'être absents, qui ne veulent pas être là. Donc, tout ça en fin d'année, en ce moment, pour des milliers d'élèves au Québec. Pour certains professeurs, je me suis entretenue avec plein de gens du milieu, pour certains profs et pour certains membres de la direction, ils ont une position ferme et trouvent que c'est encore utile de mesurer avec une épreuve uniforme les apprentissages. Donc, entre autres, j'ai parlé avec Lynn Laplante, qui est une professeure au département de didactique des langues et qui est titulaire de la chaire sur les apprentissages fondamentaux en littératie à l'UQAM. Et elle me disait, il ne faut pas oublier que des évaluations formatives tout au long de l'année. Et ce qui arrive avec l'examen du ministère, c'est une évaluation sommative. Donc, on vient prendre une photo de où est-ce qu'en est l'enfant. Et à quoi ça sert, elle me disait, il y a un volet légal à ça. Parce que, dans le fond, il faut s'assurer que le diplôme a une valeur. Donc, il faut s'assurer que tout le monde, on sache si ton diplôme d'études secondaires, bien, voici les acquis. Donc, c'est une preuve que tu es rendu là, ça va. Mais là, je me suis posé la question, OK, ça, c'est au secondaire, mais au primaire, pourquoi on a des examens du ministère au primaire? Il n'y a pas vraiment de diplôme, il y a une attestation, là, on s'entend, mais il n'y a pas de diplôme de fin d'école primaire. Donc, pourquoi mettre ce stress-là sur les enfants de 4e année, donc 10-11 ans, et les enfants de 6e année, 11-12 ans? Il y en a pour qui c'est vraiment difficile. Donc, est-ce que ça sert aux enfants, Pat? Le stress, du gros par cœur, du bourrage de crâne? Pas vraiment. Les enfants, la question que les enfants posent le plus souvent, c'est « ça compte-tu? » Ça compte-tu? On est rendu là parce que...
Ça compte pour combien?
Ça compte pour combien? Ça compte pour combien? Est-ce que ça sert aux parents? Non, pas vraiment, parce que c'est un casse-tête, c'est du stress pour nous aussi, on s'entend. Surtout quand tu as des enfants qui ont des troubles d'apprentissage et de comportement, et Dieu sait qu'on en a beaucoup au Québec. Est-ce que ça sert aux enseignants? Ben pas vraiment, parce qu'ils ont des évaluations à n'en plus finir. C'est compliqué, ils ont des grilles de correction. Donc, plusieurs profs me disaient, par exemple, ça prend 3 mois pour se préparer à ces foutus examens-là, parce qu'en avril, on finit notre étape, puis il faut les préparer pour les examens de fin d'école. Mais on fait des pratiques des examens du ministère, puis juin, ben on se pratique encore, et c'est les examens, et on corrige. Donc, à qui ça sert? Et là, j'ai attrapé la publication de Geneviève Turcotte, qui est une enseignante de Candiac. Elle a fait une publication sur Facebook.
À quel niveau?
Elle est en sixième année. Là, elle est en pause parce qu'elle fait une maîtrise en sciences de l'éducation. Geneviève Turcotte veut changer le monde. Elle veut ramener de l'humanisme dans le système. Elle veut réformer le système scolaire. Elle est pleine d'ambition. C'est de toute beauté. Mais j'ai été un petit peu cynique avec elle. J'ai comme des doutes sur sa mission, je dois dire. Et là, je lui ai demandé, toi, Geneviève, c'est quoi ton évaluation de ça? À quoi ça sert, selon toi? Puis voici la conclusion à laquelle elle en arrive. On l'écoute.
Finalement, ça sert pour faire des statistiques. Puis là, si on me dit, oui, mais c'est parce qu'on veut uniformiser l'éducation au Québec, là, je trouve que ça, c'est malhonnête parce que moi, présentement, je travaille en milieu défavorisé en campagne et tu viendras pas me faire à croire que tu veux uniformiser des élèves qui sont dans la même classe en 1, 2, 3 en campagne en milieu défavorisé avec des élèves qui sont 26 élèves dans une classe en milieu favorisé multiethnique à Candiac.
Donc, elle trouve que ça n'a pas de bon sens d'essayer d'évaluer. Elle dit que c'est une illusion, en fait.
OK. C'est peut-être une illusion, puis c'est peut-être un outil imparfait, mais sinon, comment t'évalues où en sont les élèves?
Bien, en fait, il y a beaucoup de rétroactions à travers l'année. Puis moi, ma fille est allée à l'école alternative. Il n'y avait pas de notes, mais on avait quand même une très bonne idée où ça allait. C'était motivant pour les enfants.
Mais il y a des examens du ministère.
Il y a des examens du ministère quand même. Et ils les passent haut la main. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces évaluations-là toute l'année puis d'arriver avec des examens du ministère à la fin? Moi, c'est ça ma question. Puis j'ai aussi parlé avec Bianca Nugent. Elle est de la Coalition des parents pour les enfants qui ont des troubles, des besoins particuliers, pardon, au Québec. C'est quand même 7500 membres. Et elle me disait, il ne faut pas oublier que l'école a une mission triple au Québec, l'instruction, la qualification et la socialisation. Puis elle me disait, mais comment ça se fait que la mesure pour évaluer la progression de l'élève, c'est seulement sur les notes? Alors voici ce qu'elle m'a dit, on l'écoute.
Alors pourquoi, quand on regarde les plans de réussite, c'est toujours le quantitatif qui compte, c'est toujours les résultats. À quand on va voir vraiment des cibles et des indicateurs sur le bien-être des élèves à l'école, l'innovation, la créativité, l'empathie sociale. À quand on va voir vraiment des indicateurs pour la société de demain? C'est ça qu'on devrait mesurer.
Écoute, j'entends tout ce que tu me dis, OK? Puis moi je suis pas un ayatollah de l'évaluation, le test pour le test. Il y a des juridictions, on pense à la Finlande, où pendant longtemps dans le parcours scolaire, il n'y en a pas.
Jusqu'à temps qu'il y ait 14 ans.
OK, parfait. Il y a ça. Mais d'un autre côté, à un moment donné, dans le développement scolaire, il faut que tu évalues les connaissances. Il faut que tu aies un Polaroid. Je suis pas convaincu, moi, par les arguments que j'entends de ces deux personnes-là. Pour l'instant, je te dirais. Puis un petit stress, c'est peut-être pas mauvais non plus.
Ben, un petit stress, d'accord, mais une grosse dose de cortisol. Combien d'évaluations ont les enfants toute l'année
beaucoup,
déjà?
Beaucoup.
Ben, c'est ça. Donc,
c'est peut-être ça le problème. En amont, avant,
peut-être,
il y en a peut-être trop.
Elle en a peut-être trop, puis l'examen du ministère vient mesurer quoi exactement et de quelle façon? Moi, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a une illusion, c'est qu'on prépare tellement les élèves. On dit que c'est une photo, mais les enfants, c'est du par cœur. Ils vont vomir ça sur leur copie, puis après ça, ils oublient tout. Moi, je trouve qu'il y a un questionnement à voir là-dessus.
Je te soumets un autre point de vue, Maude. Tu sais, t'as beaucoup d'évaluations. Les profs de cégep le disent. Les jeunes arrivent au cégep, ils écrivent au son. Fait que je me demande des fois ce qu'on évalue.
Oui, il y a l'effet de la pandémie aussi, hein, là, par exemple, dans ce que tu racontes. Là,
même avant
la
pandémie, on avait ces constats-là.
Mais il y a des gens qui font ça autrement. Hein. Par exemple, au pensionnat Saint-Nom-de-Marie, pardon, à Montréal, à Outremont, c'est une école privée, vous me direz, mais 1300 élèves. Mm-hmm. Et on a créé le programme Flex, où il n'y a pas de notes, on travaille en petits groupes, il y a des évaluations entre eux, c'est super intéressant. Puis une autre école primaire, cette fois-ci, dans les cantons de l'Est, l'école Plein Cœur, eux ont créé aussi une nouvelle façon d'évaluer. Donc, en 2020-2021, c'est la première fois qu'ils l'ont fait. Les élèves du troisième cycle, donc environ 80-90 élèves, n'étaient plus évalués avec des notes dans l'année parce qu'on voulait faire baisser justement la pression puis la concurrence et la fameuse course aux notes, l'espèce de sprint en ligne droite. Donc maintenant, ils ont des genres de cibles, d'objectifs. Là. C'est vraiment, c'est très imagé. On voit la cible comme quand on fait du tir à l'arc. Là. Puis là, si on arrive dans le 1000, ben wow, t'es dans le 1000. Bravo, bien visé, c'est le cercle d'à côté. Bien visé, cible atteinte, c'est moins bon. Puis presque, c'est à côté. Donc là, pendant toute l'année, les élèves, c'est ça qu'ils reçoivent. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir que c'est 85 % ou plus, probablement, le « wow » dans le « mille » ? Les élèves n'ont pas de notes en haut de leur copie, mais c'est pas grave. Ils aiment ça. Et j'ai parlé avec le directeur de cette école-là, Danny Duperron, cet après-midi, puis j'ai demandé, c'est quand même un gros changement de paradigme, comment ça a été reçu par les parents lorsque ça a été annoncé? On l'écoute.
Ça a été bien reçu. En fait, on n'a eu aucun parent inquiet de cette façon-là. En fait, moi, depuis 3 ans, là, j'ai eu aucun appel de parents préoccupés qui ne savaient pas où situer leur enfant quant à leurs apprentissages. Puis même au contraire, on a eu des réactions positives. On a aussi l'appui de notre conseil d'établissement.
Tu sais, Maude, si tu donnes des codes de couleur pour juger de l'évolution, puis qu'ils savent accorder participe passé, sont intéressés par la lecture, puis ils savent qui est Jacques Cartier, je t'avoue que je m'en fiche un peu.
Exactement, mais c'est juste qu'on peut repenser ça. Puis on sait, le Conseil d'éducation supérieure avait fait un document en 2016-2018 sur comment repenser le système d'évaluation. C'était super intéressant, c'était des experts, et ce rapport-là a été tabletté.
Merci, Maude.
Plaisir.
Oui, c'est une vaste question. Déjà beaucoup de commentaires dans la messagerie. Quand on parle d'éducation, c'est souvent comme quand on parle du Canadien. Tout le monde est un expert.